France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Si vous voulez absolument tout savoir du quinquennat qui s'achève, nous avons le livre qu'il vous faut. Et avec nous en studio, celle qui a rédigé ce livre. Bonjour Laurence Benhamou.
Bonjour.
Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron, s'est publié chez Robert Laffont. Il faut que vous nous disiez qui vous êtes. Vous êtes l'accrédité de l'AFP auprès de l'Élysée. En quoi consiste votre travail? Parce qu'il explique la minutie de votre récit.
Alors, peut-être je vais quand même rappeler ce que c'est que l'agence France-Presse.
Allez-y.
L'agence France-Presse, c'est le journal des journaux.
Oui.
Donc, nous donnons des informations en temps réel, avec un maillage de journalistes partout sur la planète, à tous les médias.
Oui.
Les bandeaux sur les chaînes d'infos, les bulletins radio, tout ça sont largement basés sur nos dépêches.
Vous êtes la matière première de l'information.
Absolument. Mmh. Et l'AFP a des journalistes qui ont des rubriques, et l'Élysée, en quelque sorte, est une rubrique, oui, avec deux journalistes qui ne font que suivre le président où qu'il aille. Et la particularité, c'est que nous avons notre bureau à l'intérieur de l'Élysée depuis plus de 40 ans, dans une salle de presse qui se trouve dans le même environnement que le président, quel qu'il soit. Et grâce à cette position unique, nous sommes aussi d'abord au cœur de l'actualité. Et puis s'il se passe un événement imprévu, ouais, souvent une crise, nous pouvons nous embarquer dans le convoi de voitures qui part avec le président, si les équipes l'acceptent, pour suivre cette actualité, bien sûr.
Et vous dites dans la page de remerciement de ce livre que vous avez rédigé depuis 2017 4500 dépêches.
Bien sûr. Alors, une dépêche, c'est une alerte, c'est-à-dire cette ligne en rouge qui, oui, s'affiche dans les rédactions. C'est aussi...
J'ai l'écran devant les yeux.
Voilà, c'est aussi, ouais, toutes les informations, quelle que soit leur importance. Donc, c'est pas forcément une question de quantité.
Ouais.
Mais quand on est à ce poste d'accrédité à l'Élysée, ce qui signifie que nous suivons à la fois l'international, le national, tous les faits et gestes et les discours, bien sûr, mais toutes les actions que nous suivons et que nous essayons de comprendre du président, le nombre d'alertes qu'on fait pour un journaliste d'agence, c'est unique. Enfin, ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'est tout à fait particulier.
Et pour donner une toute petite idée à nos auditeurs, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, nous, on est abonnés à deux agences, l'agence France Presse et Reuters, plus notre agence interne, il y avait plus d'une dépêche par minute. Voilà le rythme auquel l'information pleut, si j'ose dire. Laurence Benhamou, commençons par l'international, étant donné le climat. D'abord, quel climat règne-t-il en ce moment à l'Élysée?
Tout est axé sur l'international, bien sûr. Nous n'avons d'agenda que le jour même, voire pas du tout, voire au dernier moment, avec un agenda rempli de ces appels téléphoniques et de ces rencontres qu'organise Emmanuel Macron,
oui,
qui s'est évidemment impliqué à 100% dans cette crise. Il va y avoir d'autres sujets qui peuvent quelquefois émerger, les équipes de campagne peuvent venir à l'Élysée, il va y avoir probablement un conseil de défense Covid, mais les 199% de l'action actuellement, telle qu'on peut la voir, c'est l'international.
Alors, juste... Et il y a un climat de gravité particulier ?
Bien sûr, bien sûr. À tel point que poser des questions sur d'autres sujets est compliqué,
ouais,
puisque tout semble un peu dérisoire aux yeux de l'Élysée qui... Toutes leurs équipes sont focalisées, évidemment, sur ce sujet.
Par exemple, le coup de fil Macron-Poutine hier, 1h30. Vous êtes prévenu comment? Comment vous pouvez le raconter? Comment ça se passe? Racontez-nous ces coulisses-là.
Alors, depuis le début de la crise en Ukraine, depuis à peu près un mois, la communication de l'Élysée a changé. Ils ont créé une boucle WhatsApp avec 300 journalistes, y compris des correspondants de journalistes de tous les pays, où ils rendent compte, après chaque appel, pratiquement après chaque initiative Emmanuel Macron, de ce qu'il fait, parce que visiblement, là, il veut communiquer, et ça, c'est nouveau, c'est inédit. Nous sommes avertis juste avant du fait qu'il va y avoir un brief, un topo fait par le principal conseiller diplomatique, parce qu'il veut vraiment faire connaître son action. Donc c'est une proximité virtuelle. Ça change un peu par rapport à moi, ce que j'ai vécu pendant le quinquennat, ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, c'est que j'ai pu suivre en personne, j'ai pu voir ces déplacements, principaux ou pas d'ailleurs.
Non,
chacun,
oui, c'est ça qui est frappant.
Chacun donne des détails intéressants.
Les petits et les grands.
Oui, chacun peut donner des détails révélateurs. Mais par exemple, j'étais quand il a reçu Vladimir Poutine.
Alors voilà, c'était la question.
Ou quand il a vu Donald Trump. Alors, moi, j'ai Je pense tout le temps à cette rencontre à Brégançon. Donc nous sommes en août 2019, juste avant le G7 de Biarritz, qui doit être le grand moment diplomatique du quinquennat. Et Emmanuel Macron a toujours eu à cœur, comme vous le savez, de entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Il a changé un peu, il a changé beaucoup d'ailleurs, la doctrine en arrivant, son choix personnel. Et ce jour-là, à Brégançon, il fait très beau. Nous sommes un petit groupe de journalistes en bas du fort, devant la Méditerranée. Et on voit déjà dans le brouillard de beau temps une énorme frégate de guerre. C'est complètement incongru, gigantesque, qui croise au large de Brégançon. Et on nous fait monter tout en haut de cette petite butte, de ce petit promontoire qu'est le Brégançon, dans une petite cour fleurie, pour l'entrevue avec Vladimir Poutine. On entend un hélicoptère, il arrive, et nous savons qu'il voit la frégate. Et l'Élysée nous explique, attention, c'est un message cette frégate. Elle a servi en Syrie, c'est une des dernières nées de la flotte. Vladimir Poutine le sait. En diplomatie, ce genre de message est important. Ouais. Bon. Et sur ce, dans ce très joli endroit, on voit Vladimir Poutine qui arrive côté jardin. Emmanuel Macron est depuis quelques instants dans la cour avec son épouse. Il est tout sourire, comme je n'ai jamais vu sur aucune image, jusqu'aux oreilles, avec un gros bouquet de fleurs à la main qu'il offre à Brigitte Macron. Il y a une petite blague, il leur dit « Ah, vous avez bonne mine ». Emmanuel Macron lui dit « Brigitte, je vais m'en aller 2 heures ». Et ils vont sur le promontoire regarder la mer, après avoir fait une petite conférence de presse devant nous, sur les petits graviers de la cour. Et j'avoue que je ne cesse de penser à Vladimir Poutine et son bouquet et son sourire à ce moment-là.
La frégate et les fleurs. Est-ce que Emmanuel Macron a péché par naïveté au début de son quinquennat avec Vladimir Poutine, l'accueil à Versailles, il y a eu aussi cet épisode, et est-ce qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de lui ?
Dans ce que j'ai vu, lui-même en tout cas ne s'est jamais considéré comme naïf. Je ne vais pas faire le commentaire, je suis journaliste d'agence, j'essaie de raconter ce que j'ai vu. Il a toujours fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire il veut parler à tous. Et quand il a tenté cette réception de Vladimir Poutine tout au début à Versailles pour établir un dialogue, en même temps, dans la conférence de presse, il est assez dur sur le fait que les médias russes ont perturbé sa campagne. Bref, il a un ton assez dur. Tout comme quand il va vouloir parler même à Donald Trump, qui a évidemment des positions antagonistes. En même temps, il dit, je sais très bien à qui j'ai affaire, et le montre quelquefois. C'est naïf. En tout cas, lui ne croit qu'à l'action, il ne croit qu'au dialogue, il pense que c'est la seule manière d'avancer, en quelque sorte, et que de ne pas se parler ne sert à rien. Donc, il est très cohérent avec lui-même.
Une dernière question sur l'international, puis la parole aux auditeurs. Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vraiment, effectivement, vous êtes factuel, journaliste d'agence, ça se voit, mais que les faits parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'à propos de l'international, on voit l'activisme extraordinaire de Macron au début d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, mais à chaque fois, c'est suivi par le fait que, au fond, que ce soit Trump, que ce soit Poutine, que ce soit Merkel même, ne suivent pas forcément son élan, si j'ose dire.
Absolument. Alors, il va nous dire, quelquefois, au moins, j'aurais essayé. On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Quelques jours après son investiture, moi je suis arrivée le 14 mai 2017, même jour que lui, dans cette forteresse militaire, il s'en va à Gao, 5 jours après, la grande base militaire au Mali. Et là, vous voyez qu'il prend la mesure de ce que c'est qu'être chef de guerre, chef des armées. Je le vois vraiment vibrer devant ses militaires et comprendre qu'il a cette puissance. Et il est certain qu'il prend la mesure de ce rôle international qu'il a toujours voulu avoir. Il est clair qu'il veut marquer l'histoire et qu'il a essayé d'intervenir, d'agir, disons, dans toutes sortes de conflits, d'être médiateur pour la Libye, pour le Haut-Karabakh. Et quelquefois, régulièrement, il n'a pas réussi. Quoi qu'il se passe, il va vouloir agir. Et c'est ce qui se passe actuellement, bien sûr.
Allez, au standard, la question de Frédéric. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour. En fait, c'est plus un avis qu'une question. Moi, je pense que son bilan, c'est un exercice solitaire et autoritaire du pouvoir pendant 5 ans, à mon avis, un dévoiement de la démocratie aux dépens des autres instances avec lesquelles il aurait pu et il aurait dû partager le pouvoir du gouvernement aux citoyens, en passant par le Parlement et les corps intermédiaires.
Alors, voilà pour l'avis de Frédéric. Il se trouve, Laurence Benhamouk, le titre de votre livre, c'est « Le solitaire du palais ». Il exerce le pouvoir en solitaire, Emmanuel Macron ?
C'est lui qui décide. Il le dit d'ailleurs à la fin, que ce soit pour comment sortir de la crise des gilets jaunes, de confiner ou de ne pas confiner pour le Covid. Il a décidé, la plupart du temps, tout seul, malgré quelquefois l'avis de son entourage. Par exemple, pour le grand débat, la grande majorité de son entourage était totalement contre cette idée. Pour ce jour de fin janvier 2021, où il décide de ne pas reconfiner, oui, il va à l'encontre des experts, de la plupart des gens qui l'entourent. Alors, il y a toutes sortes de gens qui l'entourent. Hein. Tous veulent l'influencer, et il peut y avoir des grandes dissensions. Mais malgré tout, il va le dire lui-même, il prend son risque, il va décider lui-même, car il estime quelque part que au fond, un seul homme doit trancher. Et c'est le cas dans beaucoup des crises qui interviennent. Les fois où il s'est rangé à l'avis, disons, de ses proches, même si au départ c'était pas son avis, il s'en est quelquefois plaint en quelque sorte, comme quand par exemple il maintient le premier tour des municipales juste ouais, avant le confinement. Au départ, lui voulait les annuler. Il s'est laissé convaincre par son entourage. La même chose quand au départ il décide de ne pas supprimer la taxe carbone lors du début de la crise des gilets jaunes, et d'ailleurs elle va s'aggraver après, c'est parce que il comptait l'annoncer au dernier moment, nous raconte François Bayrault, il s'est rangé à l'avis d'Alexis Kohler et Édouard Philippe. Quand je dis au dernier moment, c'est dans les dernières minutes avant ouais, son discours.
Jean Hubert au standard. Jean Hubert, je vous demanderai d'être rapide s'il vous plaît.
Oui. Moi, ce que je vais retenir du quinquennat de Macron, c'est simple, c'est la phrase qu'il a dite fin juin 2017 à la gare d'Austerlitz ou à côté. La gare, c'est l'endroit où se croisent les gens qui réussissent et ceux qui n'y sont rien. Donc pour moi, c'est vraiment le mépris de classe absolu et ça correspond au droit fil de ce qu'il a dit quand il était ministre de l'économie vis-à-vis des ouvrières qui travaillaient dans un abattoir breton, Gad, qui étaient des analphabètes. Donc pour moi, c'est le mépris de classe.
Laurence Benhamou, ce qu'on peut dire factuellement, c'est que les petites phrases et les décisions prises au début du quinquennat ont coloré très fortement ce quinquennat, et on le voit encore dans la réaction de cet auditeur.
Certainement, nous-mêmes, nous avons été surpris de ces phrases quelquefois cassantes, ouais, tout à fait choquantes, clivantes, et de leur répétition. Même chose, dans son entourage, il y avait des critiques, ou au contraire, on va le pousser dans cette direction, pour le pognon dingue. Une partie, au contraire, essaye de le freiner, en disant, mais non, mais ça va pas du tout. Et lui-même, il est les deux. Il est quelquefois cassant et quelquefois très solennel, etc. Et vous avez vu, par exemple, même sur l'international, quand il dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, c'est à peu près la même chose que les Gaulois réfractaires. C'est clivant et ça choque.
Vous êtes la journaliste accréditée à l'Élysée, donc vous allez nous dire à 13h43 quand Emmanuel Macron va se déclarer candidat, où et comment.
Alors, il a encore 3 jours, date limite vendredi 18h. Je ne sais même pas s'ils ont décidé. Les éléments que j'avais eus ont tous changé au cours de ces dernières semaines. À chaque fois, ce n'était plus ouais, ce qu'on me laissait entendre. Mais il a dit qu'il voulait gouverner jusqu'au dernier quart d'heure. Peut-être qu'il faut prendre littéralement.
Donc même vous, l'accrédité, à ce stade, vous n'avez pas les éléments.
Non, j'espère bien que je les aurai bientôt.
Merci beaucoup Laurence Benhamou d'être venue dans les studios de France Inter. Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron, c'est chez Robert Laffont.